Cannes, ce sont des films asiatiques, mais c'est aussi Woody Allen. N'est-ce pas, Chava?
36-15.
Oh, l'ouverture. Oui, Cannes, c'est Woody Allen. Woody Allen, Café Society, un film qui ne sert à rien. Qui permet juste à un réalisateur et à ses producteurs de gagner un petit peu d'argent, de vivre, d'aller à Cannes, de faire du cinéma. Il n'y a absolument rien si tu enlèves les comédiens, on va dire l'ambiance Hollywood, etc., et que tu regardes l'histoire et le scénario, c'est Plus belle la vie. Voilà.
Amandine, est-ce que ça t'a plu, ce Plus belle la vie, version Woody Allen?
Donc c'est frais encore, j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Mais j'ai trouvé qu'il y avait juste pas de surprise dans le film, en fait, mais à peu près comme, comme le dernier Woody Allen déjà que j'avais vu, Moonlight.
Magic in the Moonlight.
Bah, qui est oubliable d'ailleurs.
C'était nul.
Bah, L'homme irrationnel, c'était bien.
Et celui-là, j'ai trouvé. Enfin, je sais pas, au début, j'étais vraiment prise dans l'histoire, puis plus ça passait, plus je me suis rendu compte que ça n'allait nulle part, en fait. Il y a pas de fond, il y a pas de. Voilà, c'est un Woody Allen avec une petite romance, comme on l'a déjà vu et comme on le reverra encore, quoi. J'ai pas dit. J'ai passé un bon moment au cinéma, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé qu'il y avait une petite longueur sur la deuxième partie quand même, mais il va pas au fond des choses parce qu'il y a pas de fond, tout simplement, en fait. Il veut rendre un hommage à Hollywood, il veut rendre un hommage à New York, au final il rend hommage à rien du tout. Les acteurs sont bons, il y a des très belles images, je pense notamment une scène de bougies avec des bougies que j'ai trouvé très belles, franchement j'ai trouvé ça, oui, il y en a une. J'ai trouvé ça très beau, mais oui, par contre, si on parle de fond, voilà, il n'y a rien. Mais c'est un très beau film esthétique avec des beaux acteurs.
Alors, juste un peu déçu quand même.
Alors, juste le point où je serais d'accord, c'est que c'est un Woody Allen mineur, quoi. C'est pas un grand Woody Allen. Par contre, non, pour le reste, non, c'est quand même, il y a du fond. C'est à dire qu'on retrouve, alors, c'est un thème qu'il a déjà repris dans plusieurs de ses films, c'est sur. La destinée, le renoncement, qu'on trouve dans ses meilleurs films, ça peut être Crime et délit ou Match Point, donc sur l'ambition, la destinée, le renoncement qui nous détourne des chemins attendus. Donc c'est quand même un thème qui revient dans pas mal de ses films. Après, oui, là, il le fait d'une manière. Un peu avec des sentiments un peu suspendus, s'il ne tire pas vers le mélo ni vraiment vers la comédie. C'est vraiment la vie qui suit son cours à travers la romance avortée entre deux personnages. Mais non, il y a du fou. C'est juste qu'il choisit, il fait un choix de ne pas pousser une dramaturgie ou une tonalité plus en avant que l'autre, que ce soit la comédie ou la satire sur Hollywood qui reste une toile de fond sans qu'il pousse plus que ça. Mais c'est présent, voilà, c'est un fil rouge. Du film sans que c'était la volonté, c'était pas d'appuyer un aspect narratif forcé, mais c'est un fil rouge, et moi je trouve qu'il y a quand même une belle mélancolie sur le renoncement à la fin avec la dernière scène.
Les trois derniers plans sont sublimes.
Ouais, esthétiquement, il est très beau, le film, moi je trouve. Enfin, j'ai trouvé.
Voilà.
C'est un film.
Gaël,
en fait,
j'ai la photo, quelqu'un.
Voilà, je n'ai pas vu le film, mais à Cannes, les gens me disent ah putain ce film est trop beau, enfin voilà, le directeur de la photo est un élément ultra important, enfin tu parlais de la scène à bougie, moi j'ai pas vu le film, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur justement le travail de la lumière,
le travail de lumière de la photo est tellement important que c'est un film écrit par Woody Allen et réalisé par Vittorio Storaro totalement. On dirait que c'est lui qui a décidé de tout, parce que la mise en scène, pour moi, dans le film, elle n'est pas signifiante. La seule chose qui est signifiante, c'est...
Bah oui, parce que c'est une volonté rester, d'observer à distance.
Oui, mais on voit surtout que...
Il n'y a pas de dramaturgie forcée.
Celui qui a choisi lors de la mise en scène, c'est Vittorio Storaro, pour dire, regarde, on va placer le truc là parce que c'est hyper beau. regarde, on va éteindre la lumière parce que je sais.
Là, on va revenir à la question de tout à l'heure, on va pas reprocher un film d'être beau. Quoi.
Non, mais non. En même temps, là c'est quand même vachement important pour un cinéaste qui est connu pour vouloir tout contrôler, apparemment. Enfin, voilà. Là, le chef-op, visiblement.
Il y a toujours eu des choix, depuis le début, des chef-op.
Mais il travaille toujours avec les mêmes chef-op. Là, c'est la première fois qu'il travaille avec ce chef-op, si j'ai bien compris.
Bon, avant, il avait eu Darius Conji, enfin, il a toujours eu des chefs-op quand même assez pointillus. Ouais.
Oui, mais là, quand même, on sent l'empreinte de Storero.
Je ne sens pas plus que dans d'autres films où il avait des chefs-op prestigieux.
Parce que justement, dans le précédent, L'Homme Irrationnel, il n'y avait pas tant de plans.
Parce que le sujet n'y prêtait pas, non.
Oui, non, mais.
Le travail de Vittorio Storaro, quand tu le vois sur 1900, quand tu le vois par exemple sur. Apocalypse Now. Quand tu le vois sur ce dernier film, c'est un travail qui est fondamentalement différent. Je pense que Woody Allen c'est un peu vexant de dire ça, mais Woody Allen, avec tout le bagou qui traîne derrière lui, je crois que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce qu'il veut faire, et quand il demande à Vittorio Storaro de l'assister dans ce travail-là, c'est qu'il a une bonne chose. Je ne pense pas que c'est un film qui a été réalisé. Je sais, tu vois ce que tu veux dire, mais c'est pas un plaisant.
Non, mais
il a des idées, et après, à ce moment-là, il travaille avec son chef-op. Mais je trouve que la première partie du film est, je trouve que le film est très intéressant, et puis il y a un moment, il fait que le film se divise. À partir du moment où le personnage principal quitte Hollywood pour revenir chez lui, donc pour revenir à ses origines, il y a quelque chose qui se perd.
Et qui se retrouve peut-être dans les retrouvailles, dans les derniers plans.
Le dernier plan est magnifique. Le dernier plan, en fait, résume toute cette première partie, à savoir une relation. On voit une intention de relation, ce que l'on voit à l'image, et on devine qu'elle pourrait être extraordinaire. Et le dernier plan, c'est ça, finalement. En fait, ces deux personnages ne pourront jamais cohabiter ensemble. Et c'est ce que donne le dernier plan. Ils cohabiteront dans notre imaginaire, dans nos fantasmes, mais ce que l'on va voir, ils cohabiteront jamais ensemble.
Et c'est quelque chose qui tirait d'un côté plus dramatique, dans Crime et délit,
où t'as
le personnage de Woody Allen qui a un renoncement, je dis rien pour ceux qui l'ont pas, mais il y a un renoncement sur la fin, pareil avec Matchpoint, avec le personnage de Jonathan Smithers, qui fait un choix au final qui va l'orienter dans une autre direction, et on retrouve ça là, mais sans que
ce qui est assez drôle, c'est que parfois ce cinéma-là rejoint un peu le cinéma de Scorsese, parce que le cinéma de Scorsese, c'est quoi exactement? C'est que quoi qu'il arrive, à un moment, le personnage principal, il se retrouvera seul face à ses démons, seul face à ses questionnements, seul face à ses doutes. Et je pense que ce cinéma-là se rejoint. Et à un moment, le personnage principal qui est magistralement joué par Jesse Eisenberg, parce que Woody Allen est très bon là-dessus, c'est que en fait, il arrive à prendre de cet acteur-là pour le marier avec ses
doubles. Quoi,
c'est ça, c'est fascinant. Et c'est pour ça que ce film, en fait, pour moi, c'est un film sur un couple qui a tout pour coexister, mais qui finalement existera, mais à travers notre imaginaire. Mais au niveau de ce que l'on voit, il n'existera pas. Ils ne cohabiteront jamais ensemble. Et ça, c'est très beau. C'est très beau. Ça ne fait pas forcément un grand film.
Mais ça reste
intéressant quand même.
Alors, Woody Allen est un cinéaste qui refuse d'être en compétition officielle dans tous les festivals. C'est pour ça qu'il fait souvent l'ouverture du Festival de Cannes. Les autres films dont nous allons parler ce soir étaient en compétition officielle à Cannes, à commencer par une autre comédie, ou pas. On va discuter justement du genre du film, qui est Malout, le dernier film de Bruno Dumont. Gaël, je crois que tu l'as vu et que tu as beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé, mais alors je pense que le problème c'est considérer que Malout est une franche comédie. Encore une fois avec The Apprentice, quand on parle de film show de Cannes, alors qu'en fait non, enfin tout le monde s'en a foutu carrément.
C'est une formulation de publiciste, hein, quand même.
Bah, ouais, mais enfin, moi, je suis revenu à Paris, j'ai vu des affiches de Malouf, genre la comédie de l'année,
de citations presse.
C'est Les Visiteurs 3, mais en mieux. Enfin, voilà, non, pas vraiment, quoi. C'est vraiment un film très drôle, mais qui est pas, qui se laisse pas apprivoiser simplement, quoi. Donc. Moi, ce qui m'a plu, enfin, mon Dieu, je vais encore passer pour le gauchiste de la soirée, mais c'est effectivement enfin, le rapport de classe qui est institué sur le rapport de Bruno Dumont avec ses acteurs, c'est-à-dire qu'il il a toujours préféré travailler avec des non-professionnels, et effectivement. Il est très doué là-dessus, il est tellement doué là-dessus que lorsque l'humanité était présent à Cannes à l'époque, ben, deux de ses interprètes ont été primés. Voilà. Donc, ce qui veut dire que.
Ça avait créé une polémique d'ailleurs sur le fait que des acteurs non professionnels avaient eu le prix d'interprétation à Cannes.
Voilà, et on y vient parce que c'est tout le cœur de Malouf. C'est effectivement le fait est que qu'est-ce qu'un acteur, quoi, et là-dessus je trouve ça assez brillant, c'est-à-dire que il a toujours montré que au final être un acteur c'est aussi un travail avec la personne qui c'est un truc collectif, on travaille ensemble sur un personnage. Et ce qui donne effectivement les prix d'interprétation pour l'humanité. Et là, il prend plusieurs acteurs professionnels comme Lucchini, comme Binoche, et il les oblige à mal jouer. Enfin, il travaille avec eux sur le fait de mal jouer, qui est un travail d'acteur. C'est effectivement, les acteurs professionnels jouent mal. Parce qu'il travaille sur le mauvais jeu. Et en même temps, il continue à travailler sur la vérité de l'humain avec les non-professionnels. Et ce rapport de force, j'ai trouvé ça mais formidable. Surtout qu'il y a un discours un rapport de classe, la lutte des classes. C'est clairement un film sur la lutte des classes. Alors, on pourrait dire que c'est assez caricatural, sans doute, mais c'est sans doute parce que ça reste dans la comédie que il travaille ça, et c'est voilà, moi je trouve ça super et très radical, vraiment, moi parmi les actrices qu'il fallait couronner, pour moi Julia Binoche était extraordinaire dans le mal jeu. Elle est insupportable. Elle est juste insupportable. Mais c'est tellement un bonheur de la voir. C'est tellement bien, quoi. C'est... Voilà. Oui.
Non, j'allais passer la parole à Chaba, par exemple, sur Malouf.
C'est intéressant ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec quasiment tout. Donc pour moi, effectivement, ça n'est pas une comédie. C'est un grand mélange de genres, et je suis d'accord, ce qui est intéressant, c'est la lutte sociale et cette histoire d'amour un peu particulière qui s'immisce dans ce rapport et qui fait plein de choses. La comédie, on la retrouve par exemple avec l'utilisation de personnages secondaires qui apportent la comédie, et l'aspect un peu foutraque et ce que tu disais caricatural, effectivement, mais à mon avis c'est complètement fait exprès, l'un d'un côté le côté cannibale le côté cannibale, moi je trouvais ça génial parce que c'est et puis mine de rien il joue avec le côté le nord, les consanguins, mais c'est pas forcément ceux qu'on pense qui sont consanguins, etc. Tout ça c'est intéressant. Voilà, et puis là, non, je trouve ça moins intéressant que ces précédents films que moi j'adorais, que je trouvais, qui m'emmenaient dans des endroits en termes de réflexion qui me laissait plus de moins de réponses, plus de questions, plus d'interprétations. Mais ça reste quand même un très bon film français qui a mérité sa sélection et qui, je l'espère, va, grâce à son casting, permettre aux gens, au grand public, de découvrir.
Il me semble que le film marche plutôt bien.
Et que ça soit une petite.
C'est heureux, quoi, c'est bien.
Ça marche mieux qu'un hors Satan, ça c'est sûr.
Et petit quinquin surtout. Enfin, oui, aussi, il continue effectivement cette. Alors pour moi, effectivement, il reste dans une vague comique parce qu'il est dans une écriture comique et c'est très étrange parce que moi j'ai beaucoup pensé à Hergé.
Totalement. Enfin, genre, quand c'est une claire.
Quand elle est en train de chanter. Comme ça, c'est presque la cascature qui arrive au milieu du film. Donc, il y a quelque chose de prendre comme ça, cet humour franco-belge.
Sur la BD, évidemment. Enfin, sur la ligne nucléaire belge, enfin, totalement. La cascature, mais j'y avais pas pensé, mais totalement.
Voilà, et c'est très désolant de prendre ces références de culture.
Et tardi aussi, tardi.
Et tardi, et presque sur la fin, avec cette. L'inspecteur machin qui s'envole, presque chez Goscinny, enfin, il y a quelque chose qui a un rapport avec la culture populaire, la bande dessinée, etc., qui est assez intéressant dans le film, et en même temps on retrouve vraiment la radicalité du Bruno Dumont, alors peut-être pas de Hors-Satan, mais en tout cas dans cette confrontation entre des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels, il l'avait déjà fait dans ce film avec Juliette Binoche sur Camille Colonel, dans lequel elle était elle en contact avec des acteurs non professionnels, et il y avait quelque chose qui se créait justement
c'était un jeu psychiatrique et justement travailler justement avec des non professionnels
pour moi c'est un faux débat, il y a un bon acteur.
Oui, c'est ça. Enfin,
un acteur membre.
C'est tout le discours de Dumont.
Quoi. C'est pareil. Ils ont été payés dans le film. Ils sont professionnels.
Mais c'est ce que dit Dumont au final. Ouais, quoi.
Le seul truc, c'est qu'évidemment, quand ils ont eu les prix d'interprétation, tous les mecs, ils ont rêvé de ça. Et ils ont fait des écoles de théâtre, des machins, des trucs. Ou alors, c'est le fils de producteur machin. Bah, ils sont dégoûtés quand c'est un mec qui en veut même pas en plus. Je vais le prendre parce que c'est sympa, mais finalement, moi, j'ai pas fait ça pour ça.
Ouais.
Voilà. Kefren,
je veux dire, malgré tout ce qui a été dit, Bruno Dumont n'oublie pas sa radicalité formelle, des choses comme ça. On retrouve des plans...
Et thématiques.
Oui, aussi. Et justement, parce qu'il y a toujours cette recherche qu'il y avait dans ces autres films d'un plus ou d'un absolu, ou même d'une présence métaphysique ou autre. Et elle est aussi présente dans le film entre les scènes comiques, etc. Comme par exemple la scène où. Oui, bon, je sais pas si c'est du spoil. Enfin,
peu importe, vas-y.
Bah, le film est déjà sorti de toute façon, donc la scène où Bibi...
Et puis les gens qui ont écouté 2 heures de podcast sur Mendoza...
La scène où Bibi poursuit Malou, justement, et se retrouve comme ça, elle se déshabille devant la mer, elle rentre dans la mer, et c'est extrêmement beau. Et ça, c'est une scène qui fait partie du cinéma de Bruno Dumont, justement, de avant Petit Quinquin ou des choses comme ça, et il continue cette radicalité formelle dans des espèces de... une recherche d'un plus à travers son cinéma, et il arrive quand même à la détourner. Par exemple, la scène avec Valeria Bonistachili où elle s'envole comme dans une espèce de Tarkovsky où comme ça elle commence à s'élever après avoir une révélation, sauf que Bruno Dumont justement détourne ça avec la comédie. C'est ce que j'ai adoré justement dans le film.
Oui, puisqu'il y a ensuite un personnage qui fait un commentaire ironique sur le fait que ça peut être un courant d'air, alors qu'on est sur quelque chose de très religieux, sur la grâce, sur
la meilleure blague du film.
J'ai pas tout à fait spoilé.
Il y en a d'autres.
Et ensuite, il rejoue ça d'un point de vue tout à fait grotesque et comique avec un autre personnage qui s'envole. Il y a quelque chose de très très intéressant dans cette dichotomie entre son cinéma, ce qui pouvait être extrêmement sérieux dans ce qu'il faisait avant, et là où il y a des décrochages humoristiques et comiques, donc il emploie.
Mais ce qui est assez intéressant avec Dumont depuis le début, depuis La Vie de Jésus, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours, à mon avis, travaillé sur l'origine d'eux. Donc, avec ce film-là, depuis même avec Petit Quinquin, il revenait toujours à l'essence même de la... qu'est-ce que le rire, qu'est-ce que la comédie, qu'est-ce que le burlesque et qu'est-ce que le grotesque. Et pour moi, tous ces personnages ne sont pas grotesques. Enfin, ils sont grotesques, mais ils ne sont pas vulgaires. Il n'y a rien de vulgaire dans ce qu'il filme. Et je trouve que, par exemple, de montrer un personnage tombé de sa chaise et qui ça fait rire, c'est l'essence même de la comédie. C'est l'origine de la comédie, c'est quelque chose de très simple. Et j'aime beaucoup ce revirement de la part de Dumont, alors qu'en finalement, à mon avis, il travaille toujours sur cette même thématique depuis le début, à savoir que le regard qu'il porte sur cette société très malade, et maintenant, depuis Petit Quinquin, il apporte un regard extrêmement décalé, et très loufoque, et très grotesque. Mais à aucun moment... Autrefois, on lui reprochait peut-être aussi d'être un peu taquin envers certains de ses personnages.
Petit taquin.
Jusqu'à son dernier film.
On ne peut plus rien faire avec lui. Et je trouve qu'avec Petit Quinquin...
Petit Quinquin, pardon.
Je trouve que c'est moins prononcé. Je trouve que voilà, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un changement au niveau de son regard, de ces thématiques-là. C'est toujours ce monde-là, cette société. Voilà. Mais c'est très intéressant que ce gars-là, après tout ce qu'il a pu faire, change de registre. Mais il reste toujours sur l'origine d'eux. Et moi, ça fonctionne quand je vois Lucchini tomber de sa chaise. Moi, ça me fait rire.
Nexine.
Voilà, c'est du Labiche, quoi. On arrive dans une espèce de théâtre populaire du 19e siècle, voyant du Labiche, et c'est incroyable. Et je crois que c'est un grand manipulateur du monde. C'est extrêmement bien pensé de confronter des acteurs professionnels qui jouent des bourgeois. À des acteurs non professionnels qui représentent la classe, la couche populaire. Il y a quelque chose de très pensé, et on pourrait croire que c'est finalement mesquin de sa part, mais pas du tout. On est dans une espèce de gros théâtre à la Eugène Labiche du 19e siècle, où il y a quelque chose de très populaire, où il y a des va-et-vient, des allers-retours, et c'est du grotesque, c'est super appuyé, mais ça n'est jamais vulgaire. Et en fin de compte, ça représente un peu cette société malade et cette contemporanéité. C'est pour ça que Dumont reste encore un cinéaste de l'instantanéité. C'est très intéressant, en tout cas.
Alors, un autre cinéaste, on peut se demander s'il est vulgaire ou pas, c'est Pedro Almodovar, donc, qui a présenté Julieta cette année. Amandine, je crois que tu l'as vu, non pas à Cannes, mais à Paris, vu qu'il est, oui. Il est sorti en salle. Qu'en as-tu pensé?
Alors, j'avais juste vu la bande-annonce en y allant, et je m'attendais à avoir un gros secret en allant voir le film, parce que c'est ce qui est vendu à la base. C'est ce que la musique du film nous vend aussi, une sorte de musique angoissante.
Insupportable.
Tout le temps. Mais en fait, la musique est très bonne, mais le problème, c'est que le secret en question ne suit pas, en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de secret au final. Après, j'ai aimé le film, en tout cas sur le coup. C'est avec le recul maintenant que j'y vois quelques défauts. Parce que sur le coup, j'ai trouvé l'histoire très prenante, j'ai pas trouvé de temps mort, j'ai trouvé le film très beau.
D'ordre scénaristique, alors.
Oui, mais oui. J'ai trouvé très beau le film, j'ai trouvé les acteurs très bons. Même la gestion du temps, en fait. Par exemple, que ce soit sur l'actrice et sur son enfant, j'ai trouvé la gestion du temps sur leur physique très bien faite. Notamment quand on passe d'une actrice à l'autre, je m'attendais pas à ce que ce soit fait comme ça, et j'ai bien aimé.
C'est le plus beau moment du film, le seul.
Qui est repris sur l'affiche, d'ailleurs, il me semble.
C'est un peu, ouais, en quelque sorte. J'ai vraiment trouvé ça très beau. Après, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis qu'au final, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose dans le film. On s'attend vraiment à... Donc au début, ça commence, elle est censée quitter Madrid pour aller avec son copain au Portugal, de mémoire. Ouais. Et finalement, elle décide, donc avec cette musique angoissante qui accompagne, non, qu'elle n'ira pas. Et elle ferme la porte au nez à son copain, limite, et puis... Lui, il lui fait « Je sais que t'as un secret, j'ai jamais voulu t'embêter pour ça. » Et il lui fait « Continue comme ça, ne me pose pas de questions, point. » Et du coup, il y a cette question après, quand elle commence son livre pour expliquer son passé à sa fille, on comprend très rapidement. On attend ce fameux secret, cette scène dans le train que j'ai énormément appréciée. J'ai trouvé vraiment très belle toute cette séquence sur le train. J'ai adoré cette partie-là. Je pensais que c'était ça le gros secret, même pas. Et en fait, voilà, c'est plus ce côté-là qui m'a gênée. Mais sinon, le film, en soi, ce n'est pas gênant qu'il n'y ait pas de gros enjeux scénaristiques, en soi. C'est juste que c'est vrai que c'était un Pedro Almodovar et je me suis dit, il y a forcément un moment donné où ça va partir dans un autre sens, comme il le fait régulièrement. Ça n'a absolument pas été le cas ici. Il reste sur sa ligne et c'est le seul vrai reproche qu'on pourrait donner, c'est qu'il ne va pas forcément au fond de différentes pistes qui sont données dans le film. Il y a le côté où le personnage principal a d'abord l'impression que tout le monde meurt autour d'elle, etc. C'est pas forcément approfondi. Il y a le côté où la fille, c'est pas pour spoiler non plus, mais elle serait prise dans une sorte de chose fanatique, mais voilà, c'est à peine survolé aussi, donc c'est pas forcément le sujet, je suis d'accord. Mais voilà, même le côté où finalement c'est elle qui a géré la maison et sa mère pendant des années, et c'est ça qui l'a fait souffrir, etc. C'est pas forcément super bien expliqué. Non, je suis d'accord, c'est le point de vue de la mère, mais il y a un moment donné, on a l'impression qu'il veut basculer vers le point de vue de la fille, qu'au final, il n'y va pas complètement. C'est quelque chose qui m'a gênée après coup, je le répète encore une fois. Moi, à la première vision du film, j'ai vraiment aimé, les images, je les ai trouvées très belles, les différentes histoires dans l'histoire, je les ai trouvées très bien menées. Et moi, j'ai pris mon plaisir en regardant le film, mais après coup, on peut finalement se demander s'il n'y aurait pas eu des pistes à exploiter. Et si finalement le film ne va pas bien au-delà de ce qu'il est lui-même, en fait. Le film continue vraiment après, je trouve.
Kéfren,
ouais.
Ah. Nicolas.
Bah, alors moi, j'ai un problème déjà, c'est que je suis pas très aficionado du cinéma d'Almodovar. À part Parler avec elle, que je trouve magnifique, le reste me laisse complètement indifférent. Et le problème, c'est que c'est un peu... Non, je suis désolé.
Lequel?
Puis Alcalito, c'est un de ses pires pour moi. Mais... Je déteste. Mais en fait, j'arrive pas à être touché par le cinéma d'Almodovar. J'aime pas comment il fait son cinéma, en fait. J'aime pas l'utilisation de la musique que je trouve omniprésente. En plus, c'est de la musique hitchcockienne tout le long. Même quand elle cuisine une omelette, il te fout une musique hitchcockienne. Donc, au bout d'un moment, ça me gonfle. Non, mais c'est juste gonflant, quoi. Il sait pas faire de scène sans musique, ce mec. C'est incroyable.
C'est qu'elle est dans le souvenir.
Elle est dans le souvenir, elle va aux toilettes, elle est dans le souvenir.
Tout le film est teinté de mélancolie.
Ouais, mais au bout d'un moment, c'est moi, ça me... Il y en a que ça touche, je comprends, moi, ça me casse les couilles. Je ne suis pas touché par... Non, mais si, il y a des films mélancoliques qui me bouleversent. Mais elle, enfin, le trajectoire du personnage ne me touche pas. Alors, je rejoins la scène du train qui, au début du film, est très bien. La séquence de changement de personnage est très bien. C'est les deux belles idées du film que j'ai trouvé vraiment bien. Mais le reste, je ne suis pas touché, en fait. Ça ne me touche pas, Almodovar. À part parler avec elle. Parce qu'il y a quelque chose de très charnel qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà.
Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. C'est pas... Voilà.
Non, mais moi, j'avais dire que justement...
Défendre Almodovar un peu.
Pour revenir à ce qu'elle a dit, justement, que c'était pas aussi clinquant que dans votre film, justement... C'est parce que c'est Almodovar lui-même qui revient aussi sur la Movida, sur ces années où justement il avait fait tout et n'importe quoi, et il regarde et justement comme le personnage de Olivier, justement, il regarde le passé et il dit qu'en fin de compte c'était bien, mais on dirait qu'il a manqué quelque chose, et c'est justement ce qu'il essaye de retrouver avec ce film, c'est que il y a une espèce de sérieux, des choses qu'il a pas vues justement. Et qu'il a manqué, et que peut-être qu'il a aussi manqué dans son cinéma, enfin.
Mais penses-tu pas qu'il y avait cela aussi, peut-être?
C'est bien.
Je crois pas.
Avec Tout sur ma mère, peut-être?
Sur ma mère. Non, je me rappelle pas début, de
Tout au
sur
début,
ma mère.
Au début, quand elle perd son fils, au début, dans Tout sur ma mère, elle retourne à Madrid, c'est ça, je crois, elle retourne à Madrid, donc elle retourne vers son passé.
Oui, mais justement, elle fait ça. Il y a la même chose. Justement, au début du film, justement, ce qui crée le choc, c'est qu'elle doit partir au Portugal. Et qu'en fait, si elle ne part pas, c'est parce que le jour même où elle déménage, elle descend dans la rue et elle voit la meilleure amie de sa fille. Et justement, et c'est ce qui crée le trouble chez elle, parce qu'elle avait oublié, elle avait rayé de sa fille de sa vie, justement. C'est ce qui crée le trouble, et elle retourne dans son ancien appartement à Madrid et elle décide d'écrire cette lettre. Et tout le film est justement noyé dans ses regrets et dans les souvenirs de sa vie, et justement des événements qui l'ont marqué, qui sont l'amour et la mort. Et justement, ce qu'il y a de singulier dans ce personnage, c'est qu'à chaque fois que l'amour lui arrive, la mort accompagne l'amour tout le temps, comme ça, à chaque fois. Et c'est ce qui est prenant dans le film, c'est que justement, elle ne peut pas vivre pleinement l'amour sans qu'il y ait la mort qui accompagne cet amour au même instant. Et c'est ce qui m'a vraiment touché dans le film. Et c'est aussi la mise en scène d'Almodovar, des fois, qui part dans soubresauts surréalistes comme ça, où il filme par exemple dans la séquence du train un cerf qui court au ralenti comme ça sur la neige comme ça. Et il y a des séquences comme ça qui fugaces comme ça, des sursauts.
J'ai vu un clin d'œil cirquien, mais.
Oui, bon, oui, d'ailleurs, toute la lumière dans le train est très circienne, justement, de rouge, bleu et des choses comme ça. Enfin, très appuyé dans le cinéma de Douglas, justement.
Mais en même temps, il n'a jamais renié le.
Ah oui, c'est le mélodrame, voilà.
Le mélodrame de cirque.
Amandine ?
Sur le retour, justement, dans le passé et tout, moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Et encore une fois, sur la manière dont il filme l'actrice, en fait, que moi, j'ai, enfin, les deux actrices qui jouent le même rôle, c'est que, voilà, au tout début, on a affaire à une femme qui est très élégante, enfin, ça, et on voit que même physiquement, elle rejoint ce qu'elle était avant, au bout d'un moment, puisque. Quand elle est à Madrid avec sa fille en pleine dépression, on la voit physiquement, elle prend pas soin d'elle, c'est sa fille qui doit la sortir de la baignoire, etc. Et il y a comme si, en gros, ce retour dans le passé, quand elle retourne dans son quartier, quand elle retourne sur le terrain de basket où il y avait sa fille, etc., il y avait aussi un retour psychologique totalement fatal, en fait, pour le personnage. Là, il y a même un moment... Je ne sais pas où sont les limites du spoil dans le podcast, pour être honnête, mais...
Il y a où, pas de spoil.
Voilà. Elle se fait, littéralement, elle se fait happer par une voiture, non, de manière un peu étrange. Mais il y a un retour vraiment psychologique du personnage où elle avait décidé de totalement effacer sa fille de son présent, de tout. Son copain ne connaît pas l'existence de sa fille ni des drames qu'elle a connus dans sa vie, parce que c'est une femme veuve, quand même. Et à partir du moment où sa fille revient dans sa vie, elle éjecte son copain et elle retourne complètement dans l'état où elle était avant, dans une sorte d'attente. Elle attend des nouvelles de cette fille qui ne lui parle plus depuis 12 ans, je crois, ou quelque chose comme ça.
Ouais,
et il y a une sorte d'attente, et puis c'est... Enfin, je trouve ça vraiment très bien filmé, toutes ces... parce que physiquement, c'est le travail fait sur l'actrice est énorme à ce moment-là, je trouve. Parce que tout dans son corps et dans son regard montre cette attente. Et sa vie est en pause et elle n'est plus rien tant que sa fille n'est pas là, en gros. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que sa fille est tout pour elle, et sa vie actuelle ne peut pas être en adéquation avec son passé tant qu'elle n'est pas là, tout simplement.
Slow club.
Dis rien, Victor.
Bon, bah, c'est une belle conclusion sur, sur Julieta, un autre portrait de... Et la musique. Un autre portrait de femme qui était à Cannes, c'est celui d'Isabelle Huppert dans Elle de Paul Verhoeven, qui va conclure notre voilà. Partie.
Non, la victimisation.
Or, Asie.
Son mot de va.
Nicolas, tu as des choses à dire sur Elle de Verhoeven ?
La culture du.
Non, ben justement, voilà, c'est une réduction de balles sur le film. Non, ce qui est très intéressant dans Elle, en fait, c'est que déjà, c'est que donc, ça parle de cette quinquagénaire qui est président, enfin, directrice d'une boîte de jeux vidéo. Donc, c'est pas forcément très.
Ça arrive.
Ça arrive. Mais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir de. Donc, elle va se faire violer chez elle par un inconnu. Voilà, ça commence comme ça, scène assez violente.
Avec le chat.
Avec le chat qui regarde, oui.
Ouais, sur la conduite du chat, et c'est la toute première scène
oui,
du film.
Oui, c'est la première scène du film. Et à partir de là, là où on serait le cinéma français serait parti dans...
Chava.
Non, ça commence pas.
C'est un fond, c'est un écran noir.
Oui, c'est vrai.
Un écran noir.
Oui, c'est vrai
qu'on entend. C'est plus
tard que l'on voit vraiment...
Oui, mais on le voit quand même.
Si on le voit quand même.
Après, c'est vrai que...
On voit la conséquence.
On voit la... C'est vrai qu'on entend la scène de viol et on voit la conséquence.
Ouais.
Et après, on revient sur être dessus après.
C'est ça qu'on voit.
C'est un choix de mise en scène.
Oui, c'est
ça. Ça amorce déjà le déni du personnage.
Mais déjà, on ressent la violence de la scène de la première.
Ah, c'est
dès la première séquence, même si c'est que sonore.
C'est justement, parce que c'est voilà, sonore qu'on
c'est pour, très,
voilà, et
qu'on
surtout
sent le choix du feu.
Ce chat, quoi.
Oui. C'est la dichotomie. C'est ça, en fait. Tout le film, c'est ça, en fait. C'est l'espèce de dichotomie entre. La violence et espèce de. Enfin, voilà. Bon, bref, il part de ce postulat-là, et là où tout film français du 16e arrondissement, parce que c'est ça que je qualifie en fait, aurait.
Tu sais qu'ils sont pas faits dans le 16e arrondissement, ces films.
Mais
dans le 5e.
10e arrondissement.
10e.
Ils ont tourné dans le 5e.
Ouais, dans le
5e. Bref. Là où tout film de ce genre-là serait parti dans le drame psychologique pur. avec la victimisation ultime de ce personnage féminin et tous les conséquences psychologiques qu'il peut y avoir après une scène aussi traumatisante, et ben Verhoeven prend complètement rebrousse-poil les codes de ce cinéma-là et va aller vers quelque chose de beaucoup plus ambigu, moralement ambigu, avec un espèce de jeu entre Isabelle Huppert et son violeur qui va s'installer comme ça. Et j'en dis pas plus parce que c'est.
Évidemment, il y a une recherche du violeur, après il y a le jeu.
Voilà.
Gaël, tu disais que c'était à Palme d'Or donc, en début de podcast.
Mais déjà, de voir Paul Verhoeven en compétition, ça m'a beaucoup étonné et beaucoup plu. Et ensuite, c'est par rapport à sa propre carrière, la façon dont il rebondit à chaque fois. Il s'est fait assez vite éjecter en Hollande après quelques films assez osés. On lui dit casse-toi. On lui propose de faire des trucs aux États-Unis, donc il y va. Et il a une bonne carrière. Là, il arrive à faire des trucs un peu bien casse-couille et ça arrive. Il reste encore assez longtemps, mais Starship Trooper a un peu foutu sa carrière en l'air. Showgirl, en plus de. N'a pas.
Il a bien intérêt, quoi.
Hein ?
Il a bien intérêt, Showgirl.
Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est Showgirl, maintenant c'est mort, quoi. Donc il est retourné en Hollande, il a fait Black Book, qui est sans doute un de ses plus grands films. On s'est dit qu'il allait pouvoir. Ouais, mais
sur la résistance comme ça, je pense que ça n'existe pas.
C'est vraiment. Personnellement,
c'est peut-être celui où
il allait pouvoir continuer à faire ses films en Hollande, coproduit en France, mais bon, ça n'a pas trop marché. Et donc maintenant, il fait six films en France, et donc j'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire. Et ben, il fait un film de Paul Verhoeven avec sa vision de la femme. Qui est vraiment l'héroïne absolue, la vengeresse, et qui est jamais une seule fois une victime.
Voilà.
Ça c'est un truc qu'on retrouve pas dans le cinéma américain, pas dans le cinéma français, sur le fait que même quand elles se font dégrader, elles arrivent à reprendre le dessus, quoi. Mmh. Et jamais une femme dans les films de Paul Verhoeven sont des victimes. C'est vraiment des combattantes. Et c'est des portraits de femmes fabuleux. Et servis là par une des plus grandes actrices au monde. Et moi, j'ai. C'est Isabelle Huppert. Très grande actrice. Mais je crois que je suis tombé amoureux deux fois de Isabelle Huppert, c'était à Porte du Paradis, elle avait 20 ans, elle était nue et. Cœur, voilà. Et là, elle a quasiment 60 ans et. Waouh! J'en tombe complètement amoureux, quoi. Rien que pour ça, c'est juste. La femme et. Moi, je suis à fond.
Justin.
Oui, alors moi je serais un peu plus mitigé quand même que tout le monde. Donc,
Il n'y a que Gaël et Nicolas
qui ont parlé pour l'instant.
Mais mon avis compte pour le monde entier.
C'était assez apprécié. Alors je suis d'accord pour dire que c'est un vrai film de Paul Verhoeven, avec justement ce féminisme et puis le sexe qui peut être vu comme un élément de soumission puis de pouvoir par les personnages féminins de Verhoeven. Alors il y a juste un problème, c'est que pour moi... Verhoeven, dans chacun de ses films, en fait, c'est une sorte d'agent du chaos. En fait. Donc, pour illustrer son propos, donc dès qu'il s'inscrit dans une cinématographie ou dans un contexte dans les films, c'est pour le pousser jusqu'au dernier retranchement, que ce soit dans ses films hollandais, on retrouve les thèmes de elle. Ça peut être Cathy Tipple ou Business is Business, par exemple. Où il y a ce côté féministe de femmes oppressées qui répondent par leur pouvoir sur le sexe, donc à la jante masculine. Et donc il y a ce côté-là dans ces films américains aussi, donc La chair et le sang, évidemment avec le personnage de Jennifer Jason Leigh. Il y a Showgirl aussi, il y a Et donc, de toute façon, à chaque fois, il dessine la provocation sert à bousculer en fait le contexte, le lieu, le pays où il réalise le film, que ce soit la Hollande, où il finit par se faire expulser, les États-Unis, même chose. Et puis même le contexte même des films où il pousse dans une outrance qui fait que ça raconte quelque chose sur le lieu où est tourné le film. Bah, justement, Robocop, ça raconte quelque chose sur le cynisme, le capitalisme des années 80 aux États-Unis. Showgirl sur le matérialisme avec le contexte de Las Vegas. Starship Troopers qui préfigure quasiment complètement l'administration Bush. Et donc, moi, je retrouve pas ça dans Elle, puisque faut savoir le contexte du film. Donc il avait souhaité adapter d'un livre de Philippe Dijon Haut, et donc à la base il avait fait écrire le scénario en anglais, comptait le tourner aux États-Unis. Il n'a pas trouvé les financements, donc la production était rapatriée en France. Et donc le problème du film, c'est qu'il y a tous les thèmes de Verhoeven, il y a tout ce qu'il faut, mais ça raconte rien sur la France. Là, je vois pas la France qui raconte ou le contexte social qui dépeint dans Elle. Voilà, ça reste assez terne. Ça raconte rien sur le pays, que ce soit.
Voilà, ça. Mais La chair et le sang, ça raconte rien sur les États-Unis. Alors, c'est
son projet. Mais ça pousse. Ça parle du Moyen Âge et ça pousse le. Ça pousse l'idée du Moyen Âge. Jusqu'au dernier degré du Moyen-Âge paillard.
Pour moi, il ne parle pas forcément. Enfin, ces films parlent de lui et son rapport au monde.
Je ne sais pas si voilà. C'est l'envie de Verhoeven.
Complètement.
Ouais. Tu ne peux pas reprocher à un réalisateur de dire j'ai pas retrouvé ça. Oui, mais concentre-toi sur ce qu'il y a dans le film.
Il ne parle pas du Japon.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une explication pour le fait que je trouve. Le contexte terne. Qu'il n'est pas.
Ouais, mais
peut-être que c'est le fait que la France, il n'est pas, il n'a pas ce lien ou cette connaissance de la France.
Déjà, à la base, le producteur.
Oui,
Saïd Ben Saïd. C'est le producteur français qui a proposé ce livre à Verhoeven. Et je ne crois pas que Verhoeven, s'il y a bien une chose sur laquelle il y a un travail sur le canevas, enfin sur l'espèce de matériel français, c'est plutôt, comme disait très justement, je pense, Nicolas, à savoir qu'il y a un genre bien précis dans le cinéma français, bien précis parce que c'est un genre qui est assez travaillé, qui est le drame psychologique. Et c'est vrai que ce drame psychologique avec... les codifications narratives françaises, il a une manière de dynamiter cela de l'intérieur. Après, exemples dans l'histoire du cinéma nous ont montré que quand François Truffaut fait Fahrenheit 451, il ne parle pas de l'Angleterre.
Après, moi, le problème, c'est pas qu'il parle pas de la France.
Mais je pense qu'il fait
Je trouve que le film ne fonctionne pas dans. Ouais. En fait,
dans sa filmographie, c'est qu'il y a il y a pas une cohérence avec ce qu'il faisait.
Non, c'est même pas ça. C'est que si on enlève le côté français ou on oublie, je trouve que tout le contexte du film, en fait, que ce soit le milieu du jeu vidéo, les amis d'Isabelle Huppert, tout ce qui l'entoure, je trouve ça très superficiel. Et donc, je rattache ça peut-être éventuellement au fait que c'est parce qu'il n'a pas ce lien à la France qu'il a avec la connaissance qu'il a des États-Unis ou qu'il pouvait avoir en Hollande. C'est une explication que je donne, mais après, peut-être que c'est pas ça. Mais en tout cas, les personnages, je trouve ça vraiment, les personnages sont grossièrement traités. Et puis, ça, le contexte manque de cette outrance, de ce côté.
Gaël.
Oui. Non, enfin, justement, sur le drame psychologique, effectivement, qui retravaille. Mais en fait, tout comme. The Apprentice, film choc de Cannes. Le truc, c'est que, niveau pub pour Elle, il aurait fallu aussi intituler, mettre des grands bandeaux en disant la plus grande comédie française de l'année. Parce que c'est vraiment super drôle. C'est vraiment un film qui est très dur, mais en même temps qui est hilarant. Il travaille le drame psychologique, il travaille aussi la comédie française, et c'est vraiment là une vision complètement.
Il y a un petit côté décalé, amusant.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Avec justement, enfin, ce, 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 euh, donc, donc il y a un juif, il y a un enfant noir qui est l'enfant en fait d'un couple blanc, et en fait mais d'où il vient, enfin il y a tous ces
trucs là. En fait, je crois que le problème en fait c'est que Verhoeven c'est pas un cinéaste de la subtilité, c'est un
cinéaste.
Oui, mais là j'ai l'impression que sinon le problème c'est que là je le sens, si je sens timoré, je sens qu'il il y a un côté un peu tiède.
Alors Kefren, parce qu'il en peut plus.
Non, mais tu dis que Verhoeven n'a pas de peut-être de lien avec la France, quoi, c'est bien. Ouais. Mais il a ça avec le cinéma français. Là, il connaît parfaitement le cinéma français. Mais il démonte.
En fait, je vais vous parler d'un. Par exemple, il y a un cinéaste. Pourtant, je vais défendre un cinéaste que je déteste. Hein. Mais en fait, par exemple, un Michael Haneke, quand il fait ses films en France, je trouve que c'est autrement plus dérangeant. Pourtant, je déteste son cinéma, mais c'est autrement plus froid, plus dérangeant, plus que ce que Verhoeven a tenté de faire.
C'est pas la même manière.
En s'appropriant un contexte français. Vous me parlez de cinéma français. Vous parlez de cinéma français qui s'abuse à détourner.
La preuve que ça peut pas se passer dans un film américain, puisque le personnage du fils travaille dans un Quick et non dans un McDonald's. Ce qui prouve complètement
juste pour rebondir ce qu'il a dit sur les personnages qui sont peut-être caricaturaux, stéréotypés, je pense que c'est complètement volontaire. C'est le drame psychologique français. Je ne sais pas si tu vois les drames psychologiques français de ces 30 dernières années, mais c'est exactement ces personnages-là que tu as dans ces films-là.
À part Virginie Ferrat est magnifique dans le film.
C'est la meilleure.
Oui, à part elle. Oui, exactement.
Virginie Ferrat, elle n'a jamais été aussi drôle que dans ce film-là.
Le
collègue. Moi, j'ai vu Victoria et ensuite elle.
Je peux dire des choses parce que.
Dire des choses
parce que déjà je suis d'accord, il démonte le cinéma français. Il prend ses acteurs, il prend son argent, il prend tout et il démonte. Il fait quand même un drame psychologique français où il y a des agressions sexuelles, des viols, des meurtres, des trucs, des machins. Je veux pas tout dire,
mais ça existe déjà quand même dans du drame psychologique français. C'est pas il l'a pas inventé.
Laisse-moi finir. Et tu sors du cinéma, t'as la banane. Ça n'arrive jamais. Quand tu sors d'un film français, drame psychologique, tu sors jamais en disant « Putain, c'est dingue, je me sens tout léger. Qu'est-ce que je viens de voir ? Des viols, des meurtres, des trucs. » Tu fais « Ah !» Donc il a touché quelque chose, il a fait quelque chose que les autres ne font plus ou ne font pas en ce moment. Première chose. Deuxième chose, tu parles de subtilité, c'est très subtil, justement. Et là où ce qui est fort, c'est que c'est une nana qui est une victime à la base dans sa vie, qui le devient physiquement, et qui progressivement va démonter tous les gens qui la rendent victime. Mais subtilement. Subtilement, elle va juste dire à son amant, c'est fini. Mais subtilement, c'est pas la grande scène française où il casse des trucs, l'autre mec fait non, mais reste avec moi. Non, c'est juste qu'il lui fait, c'est lui. Et à chaque fois, elle fait ça, avec son fils, avec son père, avec son truc, avec son machin, avec son truc. Progressivement, tac, 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 à la fin, t'as une magnifique petite phrase de Virginie Fira qui est savoureuse, qui est peut-être la meilleure phrase qu'elle a jamais dit dans le cinéma. Et je pense que Virginie Fira, bon, Laurent Lafitte, il est extraordinaire. Ils avaient lu Père extraordinaire. Mais Efira, elle va s'en sortir grandie de ce film-là, parce que les gens vont dire « Ah, elle peut faire autre chose que les Mimbo. » Ben oui, ce mec-là, il a vu les acteurs français, il a dit « Ben oui, eux, c'est des bons, on va leur faire des vraies choses, des dialogues savoureux. » Bon, après, la mise en scène, c'est pas forcément le plus important, mais... Putain, le film, c'est le meilleur film français. Je pense que ça fait longtemps que j'en ai pas vu un comme ça, et effectivement... Je suis d'accord avec toi quand il dit peut-être qu'il connaît pas bien la France, le contexte français. Mais en fait, on s'en fout. Oui. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est l'humanité, c'est l'histoire d'une nana qui se fait marcher dessus par ses mecs. On sait pas pourquoi. C'est pas la question, mais c'est peut-être. C'est la vie, c'est comme ça. Et qui, en étant victime, va tout retourner, etc. Parfait, on a ri. On a flippé, on a eu ce thriller, il y a eu des retournements, des machins, des choses qu'on a senties. Et en plus, c'est ça, parce que cinéma français, tu sens les trucs, tu dis « Ouais, mais je l'ai vu à 10 km. » Sauf que dans ce film-là, ça arrive, et tu dis « Je suis content que ça arrive. » Alors en fait, il demande tout. Le truc, c'est... Le truc, c'est qu'apparemment, vous tous, le truc qui vous plaît dans le film, c'est que c'est en réponse à du...
Non, à un drame
psychologique.
Non,
vous arrêtez pas de me parler du drame français.
C'est lui.
Moi, je compare juste avec ses films précédents, je l'inscris dans sa filmographie. Mais après, je compare pas, j'en ai rien à faire du drame psychologique français, qu'il le contourne ou qu'il le détourne, ça m'intéresse pas ça.
Si, c'est le cinéma.
Non, c'est pas le détourner. Moi, c'est ce qu'il raconte, la manière dont il le raconte.
Il le détourne pas, c'est pas ça. Il le fait à sa façon et ça démontre tout le reste. Mais moi, c'est pas un détournement, c'est pas une parodie, c'est pas genre.
Parce que j'ai l'impression que c'est parce que vous êtes content de voir exploser un contexte.
Non, on est content de voir un drame psychologique bon.
Voilà, tout simplement.
Un bon film français, drame psychologique.
Ouais. Alors, je trouve que c'est une bonne conclusion sur elle.
Mais
et sur...
je suis pas complètement en désaccord avec ton argument, mais le film, c'est une bombe. Le cinéma français, il manque tellement de films comme ça.
C'est le problème. Moi, je compare avec.
Et même le cinéma mondial, alors dans ce cas-là, je te dis, même le cinéma mondial, il en manque des trucs comme ça.
Non, Chabat.
Drame psychologique où tu sors en français.
Il y a des très bons films aussi, le cinéma mondial.
Mais je dis pas l'inverse.
Si tu dis non, mais dans ce genre-là, j'ai l'impression que.
Ça veut dire que c'est pas juste un bon film français, c'est un bon film tout court.
C'est un bon film tout court.
C'est un bon film de l'année, ce sera dans mon top
10. Alors, on va être obligé de conclure sur le cinéma français et le cinéma mondial, mais on va avoir un petit bonus sur X-Men Apocalypse.